Vous écoutez, on lit pour vous.
J'ai mal, je vais à l'urgence ou pas? Un texte de Dr. Christiane Laberge, paru le 16 février 2024 dans le magazine Virage. Comme leur nom l'indique, les salles d'urgence s'occupent de problèmes de santé qui nécessitent des soins immédiats ou une prise en charge rapide. Or, on le sait, celle-ci déborde régulièrement de cas qui auraient pu être traités ailleurs. J'en conviens, lorsqu'on ressent de la douleur ou qu'on souffre de symptômes dont on ne connaît pas l'origine, il n'est pas toujours évident de savoir si l'on doit consulter une ou un médecin sur le champ ou attendre pour un rendez-vous en clinique. Pour vous aider à y voir plus clair, voici une série de questions à vous poser avant de prendre votre décision. Intense, soudain, intolérable? D'abord, est-ce que je détecte des signes d'un problème qui pourrait mettre ma vie en danger, comme un AVC ou une crise cardiaque? Est-ce que je ressens de fortes douleurs? Ai-je de la difficulté à respirer, à parler, à bouger, à voir correctement, etc.? Si oui, je compose le 911 et j'attends l'ambulance. Il faut éviter de conduire soi-même pour se rendre à l'urgence. Ensuite, est-ce que mon problème de santé est récent? Si oui, est-il apparu subitement? A-t-il progressé rapidement? S'il remonte à un certain temps, est-ce que mon état s'est détérioré brusquement au point de devenir intolérable? Puis, est-ce que j'arrive à soulager mon mal? Si je m'étire, me recourbe, me couche ou m'assois, est-ce que la souffrance s'atténue, persiste ou s'amplifie? De même, si j'ai ingéré de l'acétaminophène, Tylenol, ou de l'ibuprofène, Advil, Motrin, ai-je pu alléger la douleur? En résumé, vous devez vous fier à votre jugement. Si le problème est soudain et intense, que la douleur est persistante et intolérable, ou que votre état se dégrade brutalement, il vaut mieux ne pas attendre et vous présenter à la salle d'urgence. Où consulter? Au contraire, si les symptômes durent depuis des semaines sans aggravation brutale et que l'intensité de la douleur est faible ou modérée, il vaut mieux se tourner vers une autre ressource. Si vous avez une ou un médecin de famille, vous devez contacter sa clinique ou le GMF où vous avez votre dossier. En son absence, une autre personne désignée à l'interne peut prendre la relève. Sinon, vous devrez prendre rendez-vous au « sans rendez-vous » de l'établissement. Malheureusement, chaque clinique a ses règles particulières pour encadrer cette procédure. Vous pouvez aussi tenter d'obtenir une consultation sur « Rendez-vous Santé Québec ». Votre médecin doit y inscrire les plages horaires disponibles à son agenda. Vous comprendrez que celles-ci ne seront pas offertes tous les jours, surtout si ces activités médicales particulières, AMP, obligatoires, l'amènent en d'autres lieux. Si vous n'avez pas de médecin de famille, vous devez composer le 811 et choisir l'option 3, guichet d'accès à la première ligne. Ce service vous permettra de parler à une infirmière qui vous posera des questions et vous donnera des recommandations pour des soins à la maison. Et, si une consultation semble nécessaire, vous dirigera vers le service médical approprié. Elle pourrait aussi essayer de prendre pour vous un rendez-vous rapide dans une clinique de votre secteur. Il se peut néanmoins que l'infirmière ne trouve aucun rendez-vous dans un rayon de 60 km de votre résidence ou de votre lieu de travail. Dans ce cas, elle pourrait vous indiquer de vous rendre à l'urgence. C'était « J'ai mal, je vais à l'urgence ou pas », un texte de Dr. Christiane Laberge, paru le 16 février 2024 dans le magazine Virage.
Problèmes de nutrition chez de jeunes athlètes amateurs. Un texte de Marie-Ève Cousineau paru le 10 avril 2024 dans Le Devoir. Un jeune joueur de football qui fait une crise de tachycardie en plein match après avoir avalé une boisson énergisante contenant une quantité astronomique de caféine. Une nageuse qui consomme trop de suppléments vitaminés et dépasse la limite de magnésium recommandée par jour. Une adolescente gymnaste qui élimine des catégories d'aliments pour aplanir son ventre dans son maillot moulant. Des diététistes nutritionnistes sonnent l'alarme. Leur ordre professionnel demande à Québec d'agir pour mieux encadrer le milieu sportif étudiant et civil. Mélanie Olivier, présidente et fondatrice de la clinique de nutrition sportive Vivaï, reçoit chaque semaine de jeunes athlètes amateurs qui prennent trop de suppléments vitaminés ou qui ont cessé de consommer des aliments après avoir reçu des conseils inadéquats de la part d'un entraîneur, d'un préparateur physique ou d'une personne qui a fait quelques formations en nutrition. Au moindre petit ballonnement, on coupe le gluten, le lait, les produits laitiers, déplore la diététiste nutritionniste. On voit ça fréquemment. Elle a récemment reçu un hockeyeur de compétition qui a développé un trouble alimentaire à la suite, affirme-t-elle, d'un commentaire d'un entraîneur. Dans l'équipe de hockey, les joueurs se pesaient chaque semaine sans raison apparente, précise-t-elle. Le garçon s'est soumis à une diète et a subi des fractures de stress liées à une densité osseuse affaiblie. Il est suivi en psychologie. Il n'est plus aussi performant sur la glace. L'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, ODNQ, affirme recevoir chaque mois un signalement concernant une recommandation préoccupante formulée par un non-professionnel. Un exemple? Une personne qui prône dans les médias sociaux la diète cétogène, régime faible en glucides et élevé en gras pour les jeunes footballeurs. Le bureau des enquêtes de l'ODNQ l'a contactée pour la sensibiliser, indique la présidente de l'Ordre, Joëlle Aymon. Mais l'ODNQ n'a pas pu en faire plus. Au Québec, les activités réservées aux diététistes nutritionnistes sont d'ordre clinique et s'effectuent dans un contexte d'ordonnance médicale lorsqu'il y a maladie. La nutrition sportive, ça fait partie de la saine alimentation, explique Joëlle Aymon. Quand on fait un sport, on n'est pas malade. Les conseils en nutrition peuvent pourtant avoir des effets importants, surtout chez les jeunes qui sont en pleine croissance, signale-t-elle. L'ODNQ juge que le gouvernement doit mieux encadrer le milieu sportif amateur en matière de nutrition. Il demande à la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Isabelle Charest, de modifier son projet de loi 45, qui vise à renforcer la protection de l'intégrité des personnes dans les loisirs et les sports, afin d'inclure des mesures qui assurent la sécurité de l'état nutritionnel des athlètes. Dans un mémoire soumis à la ministre, l'Ordre recommande notamment que de la formation soit offerte aux entraîneurs et aux personnes susceptibles d'intervenir auprès des jeunes athlètes. La diététiste nutritionniste Émilie Comtois-Rousseau, spécialisée en nutrition sportive, croit qu'il s'agit d'une nécessité. Selon elle, le niveau de connaissance en alimentation des jeunes et des entraîneurs est très faible. La désinformation nutritionnelle explose en ligne. Combien de jeunes me disent qu'ils sont trop gros, qu'ils veulent avoir un six-pack, abdominaux, adoptent des diètes super restrictives et à cause de cela, ne gagnent jamais la masse musculaire qu'ils ont besoin de gagner, dit la nutritionniste du Centre Excellence Sportive en Outaouais et diététiste en chef des équipes sportives de l'Université d'Ottawa, les GGs. En camp d'entraînement, ils sont trop nombreux, d'après elle, à refuser un sandwich à la crème glacée ou une sucette glacée sous prétexte que cela va un peu nuire à leur performance sportive. Tous les jours, « je suis un peu obligé de défaire des mythes », dit Émilie Comtois-Rousseau. « Manger un Timbit qui contient 50 calories, c'est une pinotte quand tes besoins caloriques sont de 7000 par jour. Réaction du cabinet de la ministre Charest. Au cabinet d'Isabelle Charest, on indique que la ministre est nutritionniste de formation et qu'elle est donc très au fait de ces enjeux. On a pu prendre connaissance du mémoire présenté par l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, écrit-on. Comme pour les autres mémoires reçus, on y trouve des propositions intéressantes qui nous guideront pour la suite des travaux. Le projet de loi 45 fera prochainement l'objet d'une étude détaillée. Chez Sport Québec, la directrice générale, Isabelle Ducharme, estime que les recommandations de l'ODNQ sont louables et bienvenues. Mais la question est, qu'est-ce qui peut être amené dans le projet de loi versus qu'est-ce qui peut être fait en éducation dans le milieu, demande-t-elle. C'est deux éléments différents. Isabelle Ducharme indique que le Programme national de certification des entraîneurs comporte une formation de base en nutrition. Elle souligne que les entraîneurs ont pour mission d'offrir un encadrement sportif aux jeunes et non nutritionnel. À la base, la responsabilité des organisations et des entraîneurs au niveau local et régional, c'est de mettre en place une activité sportive, affirme-t-elle. Est-ce qu'il y en a qui vont plus loin? Ce n'est pas des recommandations qu'on a. Elle rappelle que les parents peuvent aussi aller chercher des conseils nutritionnels à l'extérieur du système sportif. Martin Fréchette, diététiste nutritionniste à l'Institut national du sport du Québec, estime qu'une minorité d'entraîneurs en sport étudiant ou civil outrepassent leurs compétences en nutrition. Qu'un entraîneur ou un parent véhicule le guide alimentaire canadien, je ne pense pas que c'est un grand enjeu, soutient-il. La chose plus à risque, c'est quand on parle d'évaluer l'alimentation d'une personne ou de faire une recommandation comme « tu devrais modifier ton apport énergétique à la hausse ou à la baisse ». Ça devrait être fait par une diététiste nutritionniste. C'était « Problème de nutrition chez de jeunes athlètes amateurs », un texte de Marie-Ève Cousineau paru le 10 avril 2024 dans Le Devoir.
Les outils dépanneurs en cas de panne de courant. Un texte de Pascal Forget, paru dans le magazine Bel Âge. Pas d'électricité? Pas de problème. Voici quelques outils et astuces pour traverser une panne en tout confort, qu'elle soit longue ou courte. Des lampes pour bien s'éclairer. À pile. Une bonne idée est de s'équiper d'une lampe de poche qu'il suffit de ranger dans un endroit facile d'accès. Cela évite d'avoir à allumer des bougies potentiellement dangereuses ou à utiliser la lampe de son téléphone pour s'éclairer, ce qui en réduirait la charge. Mieux vaut aussi faire provision de piles à garder dans un endroit également facile d'accès et ne pas oublier de vérifier leur date de péremption. Après celle-ci, leur charge ne sera plus assurée. À manivelle, une lampe radio d'urgence à manivelle comme la radio météo solaire d'urgence à manivelle AM3FM-NOAA, environ $30 sur Amazon, permet d'éclairer ou d'écouter la radio. Pour la faire fonctionner, il suffit de tourner la manivelle. Entendre de la musique ou les nouvelles quand il fait noir, c'est réconfortant. Le jour, elle marche à l'énergie solaire. Certains modèles peuvent également recharger un téléphone intelligent, mais dans ce cas, il faut y mettre beaucoup d'huile de coude. Connecter. Une lampe intelligente peut aussi s'avérer pratique dans la noirceur. Par exemple, la lampe portable Eve Flare, environ $130, très design, peut être laissée sur sa base de recharge au quotidien. Elle procure une agréable lumière d'ambiance et on peut ajuster son intensité et sa couleur avec Siri ou son téléphone iPhone seulement. En cas de besoin, elle pourra éclairer jusqu'à 6 heures grâce à sa batterie intégrée. Gonflable. Les lampes gonflables ont ceci de pratique. elles occupent peu de place dans un tiroir, une valise ou un sac. Par exemple, la Lucky Outdoor 2.0, environ 60 $, ne pèse que 125 grammes. On la gonfle pour obtenir un éclairage doux avec 4 niveaux d'intensité. Elle est solaire, donc ne nécessite pas de pile. Il suffit de la placer près d'une fenêtre pour qu'elle soit toujours chargée, avec une autonomie allant jusqu'à 24 heures. Pour que tout continue de rouler. Internet sans interruption. Dans une zone où les pannes sont fréquentes, on opte pour une unité UPS, Uninterruptible Power Supply, dont la batterie élimine les brèves coupures de courant. Si on y branche notre routeur, l'Internet ne coupera pas si l'alimentation électrique est instable, pendant une tempête ou un orage, par exemple. On aura le temps de sauvegarder ses fichiers et de terminer ses appels vidéo pour le travail. Plus le prix est élevé, plus le nombre de prises et la capacité de la pile seront importants. On trouve différents modèles sur Amazon pour une centaine de dollars. Énergie portable. Pour alimenter les petits appareils, une batterie portable conçue pour le camping motorisé peut rendre la vie bien agréable. Blue Yeti propose plusieurs modèles, dont l'AC60, avec 2 prises électriques standards en plus de ports USB environ 900 $. Elle se recharge avec le courant secteur, une prise 12 volts de voiture et même des panneaux solaires en option. En prime, son panneau lumineux est bien pratique pour s'éclairer pendant des heures. Pour cuisiner sans électricité. La cuisson à l'énergie solaire. Les fours Gosan, différents modèles à partir de 70 $, concentrent les rayons solaires pour cuisiner sans autre source d'énergie et sans fumée. On pourra cuire et réchauffer des repas ou faire bouillir de l'eau. Ça fonctionne même l'hiver. Il faut évidemment du soleil. Si le ciel est légèrement ennuagé, la cuisson demandera plus de temps. La version fusion peut même utiliser l'alimentation électrique si l'électricité revient. Que des brindilles. Pas d'électricité au chalet, on pourra cuire sa nourriture avec un four extérieur BioLite Camp Stove 2, environ 200 $. Pas besoin de corder du bois, on l'alimente avec des brindilles. Ce four utilise une pile qui se recharge avec la chaleur du feu. On peut s'en servir pour charger son téléphone ou ses appareils USB en cas de besoin. La voiture électrique. Utiliser la batterie de son auto électrique comme source d'énergie? En cas de panne, c'est une option qui pourrait permettre de faire fonctionner notre frigo, notre congélateur et même de petits électroménagers pendant plusieurs heures, voire quelques jours. Pour en profiter, il faut s'informer sur l'option de recharge bidirectionnelle lors de l'achat d'un véhicule électrique. Certains modèles l'offrent déjà, comme le Ford F-150 Lightning, la IONIQ 5 et la Kia EV6. Il faut aussi avoir une borne de recharge compatible à la maison. C'était « Les outils dépanneurs en cas de panne de courant ». Un texte de Pascal Forget, paru dans le magazine Bel Âge.
Ces garçons perdus dans la forêt. Un texte de Paul Journet, paru le 25 mars 2024 dans La Presse. On devrait lire plus d'essais et d'études en politique. La phrase est sortie sans avertissement au détour d'une interview avec Marwa Rizki. La députée libérale pensait à tout le monde, les journalistes, les élus et elle-même. Notre entretien devait porter sur le nouveau tableau de bord du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. L'idée est très bonne. Le Québec manque en effet de données sur le réseau. D'ailleurs, on pourrait aller encore plus loin dans la cueillette et le partage d'informations. Mais c'est là que Mme Rizki a fait un lien avec une récente lecture « Sous-scolarisation des hommes et le choix de profession des femmes, publié par Robert Lacroix avec Catherine Heck, Claude Montmarquette et Richard-Ernest Tremblay. Bien sûr qu'on a besoin de mieux connaître ce qui se passe dans le réseau, mais il ne faudrait pas non plus se faire croire que c'est ce qui empêche d'agir. Il y a des problèmes bien documentés pour lesquels on ne fait pas grand-chose, comme les difficultés scolaires des jeunes garçons. Lors de son annonce, M. Drainville a évoqué la possibilité, et non la ferme intention, de dresser à moyen terme un palmarès des écoles. C'était la petite controverse du jour, l'arbre sur lequel tout le monde collait son regard. Pourtant, toute une forêt s'offrait derrière, prête à contempler. Parmi ces enjeux qui sont devenus comme une toile de fond qu'on ne remarque plus, il y a le retard des garçons. Il y a un an, mon collègue Yves Boisvert avait consacré une longue chronique à l'essai dont parle la députée. Depuis, l'actualité a continué son feu roulant. Elle s'intéresse plus aux urgences quotidiennes qu'aux drames qui se perpétuent avec une banale régularité. Revoici le portrait en quelques lignes. Pour le taux de diplomation au secondaire, l'écart entre les garçons et les filles dépasse 10 points de pourcentage. Selon l'enquête internationale PISA de 2018, nos garçons réussissent légèrement mieux en mathématiques. Mais en compréhension de lecture, il y a un fossé effrayant. Près de 30 points de pourcentage à l'avantage des filles. Par la suite, environ 3 filles sur 4 accéderont au cégep. Pour les garçons, c'est à peine 1 sur 2. Près de 70 % des demandes d'admission à l'université sont faites par de jeunes femmes. Je le vois quand je vais parler dans les universités, raconte Mme Risky. Dans les derniers mois, j'ai commencé à faire sortir les chiffres. En commerce, il y a 60 % de femmes. En droit, 70 % En santé, 80 %. C'est énorme! Le dossier est délicat, car il est facilement récupérable. Pour l'analyser, il faut oublier ses a priori et appréhender les chiffres avec un esprit ouvert, en acceptant de tolérer les apparentes contradictions et les nuances de gris. D'abord, cet enjeu heurte le combat militant qui vise à parler de genre au lieu de sexe, en remettant en question ces constructions sociales jugées arbitraires. Cela existe, en effet, mais il y a aussi des différences biologiques objectives entre les sexes. Les études démontrent une fragilité associée aux garçons. Très jeunes, ils accusent en moyenne un retard cognitif et langagier par rapport aux filles. Enfin, ils sont plus susceptibles d'être autistes ou d'adopter un comportement dangereux. Ce n'est pas propre au Québec. Le même phénomène s'observe ailleurs. L'école ne crée pas non plus cette différence, mais elle échoue à l'atténuer. Si cela passe inaperçu, c'est, entre autres, parce que sur le marché du travail, les hommes gagnent encore plus que les femmes. Leur taux d'activité est également supérieur. La parité n'est pas gagnée non plus pour les femmes dans les postes de pouvoir. Et il y a, évidemment, toutes les violences subies par les femmes. La pensée binaire incite à choisir son camp. On devrait pourtant aider tous ceux qui en ont besoin, se préoccuper particulièrement du sort des petits garçons n'équivaut pas à nier que les différences entre les sexes sont en partie culturelles et que les femmes subissent de la discrimination. Ce combat est compatible avec le féminisme. C'est aussi cela qu'évoquait Mme Risky en plaidant pour une réflexion qui va au-delà des controverses du jour. Le lecteur qui plonge dans un long texte est plus disposé à appréhender le monde dans toute sa complexité. J'ajoute d'ailleurs à votre liste de lecture un autre ouvrage. Le paradoxe sexuel de Susan Pinker, une psychologue de l'Université McGill. Elle y analyse les différences biologiques et culturelles entre les sexes et examine plusieurs tabous, comme la faible participation des femmes en STEM, sciences, technologie, génie, mathématiques. Le Québec offre un programme « Chapeau les filles » pour les étudiantes en sciences. Mais pourquoi on ne prévoit rien pour attirer les garçons, par exemple, en enseignement, qui pourrait d'ailleurs servir de modèle? Demande Mme Risky. En s'appuyant sur le livre « Sous-scolarisation des hommes », Mme Risky donne d'autres exemples d'initiatives gouvernementales qui font abstraction de données connues. L'ancienne ministre de l'Éducation, Danielle McCann, avait annoncé une cible pour l'obtention des diplômes au cégep. Mais les filles dépassaient déjà cet objectif. Le retard s'expliquait juste par les garçons. Pourquoi ne pas les avoir ciblés? Questionne Marois Risky. On touche ici à un autre tabou. Le gouvernement caquiste, comme son prédécesseur, veut favoriser la persévérance scolaire, notamment en orientant les garçons intéressés vers des formations professionnelles, plombiers, électriciens, etc., au lieu du diplôme secondaire, DES. En effet, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour réussir sa vie. De tels métiers peuvent être bien payés et valorisants. M. Drainville s'inspire de la Suisse et de l'Allemagne, qui misent sur ces parcours. C'est très bien. Mais ne pourrait-on pas, en même temps, travailler sur la formation régulière des garçons? Mme Risky rappelle qu'un diplômé universitaire gagne en moyenne un meilleur salaire, risque moins de voir son emploi remplacé par l'automatisation et est également moins susceptible de subir un accident de travail ou de devoir prendre une retraite hâtive pour ménager son corps. Au-delà d'initiatives isolées, aucune mesure nationale d'envergure n'a été prise, déplore Mme Risky. Et même si ça ne fait pas toujours la manchette, cela reste un petit scandale. En fait, le scandale est peut-être justement que ça ne fasse pas plus souvent la manchette. C'était « Ces garçons perdus dans la forêt ». Un texte de Paul Journet, paru le 25 mars 2024 dans La Presse.